France Culture.
Chers auditeurs de France Culture, je vais vous raconter une histoire. Si vous utilisez les émoticônes, cette communication non verbale mais très efficace, vous savez qu'un visage vert n'indique pas un état de grande forme. Ce faciès, couleur cul de bouteille, est désormais une convention pour qui veut exprimer le malaise. Mais dans la vraie vie, la moderne, à l'exception de quelques mythomanes à la recherche de compagnie sur les forums Doctissimo, on rencontre rarement ce genre d'anomalie dermatologique. Dans le Suffolk d'aujourd'hui, au sud-est de l'Angleterre, on trouve pas grand-chose. Une nature éblouissante que n'ont jamais quittée les peintres Constable et Gainsborough, un isolement invitant à la contemplation qui inspira le compositeur Benjamin Britten, des terres agricoles, des paysans, des pubs, un port de conteneurs à Felix Stowe. Bref, une Angleterre littorale, peinarde, qui voit les jours se succéder à l'abri du tourisme, défiant tranquillement le temps. En dehors d'une race de cheval endémique, le Suffolk Punch, solide alezan à la robe luisante, ce comté n'a aucune raison de faire parler de lui depuis le Moyen-Âge. Pourtant, au cœur de ce pays, Woolpit, qui veut dire « piège à loup », est un village dont toute l'Europe parlait au XIIe siècle. Il y reste des maisons construites à cette époque, des maisons à pans de bois qui furent les témoins d'un des plus grands mystères de l'histoire anglaise, l'apparition de deux enfants verts. Ralph de Coggeshall, dans son Chronicon Anglicarum, en parle alors ainsi. « Color cutis eorum erat viridis, sicut herba, et omnino errant ignari victus nostri. » Oui, vous avez bien entendu.
La couleur de leur peau était verte comme l'herbe, et ils ignoraient complètement notre nourriture.
À cela, il faut ajouter dans le Historia Rerum Anglicarum de William de Newburgh, Dicebant venisse de regiona subtera, ubi sol non fulgeret, sed crepusculum perenne maraneret.
Il disait venir d'une région souterraine, où le soleil ne brillait pas, mais où régnait un crépuscule éternel.
Oui, notre fabula lepida, notre histoire truculente, est consacré à un fait historique, avéré et étudié au fil des siècles. Deux enfants à la peau verte sont indiscutablement apparus à Woolpit au milieu du XIIe siècle, à cheval sur les règnes du roi Stephen et de Henri II Plantagenet. Et l'origine de ces gremlins reste à ce jour un point d'interrogation pour des gens aussi divers que des anthropologues, des biologistes, des psychanalystes et les habituels occultistes en thérapie chez ces derniers. Un jour d'été, occupés aux champs près des fosses, des paysans de Woolpit aperçoivent deux enfants, un garçon et une fille, aux vêtements étranges et à la peau verte. Ils ont entre 8 et 12 ans, se tiennent par la main et parlent une langue totalement incompréhensible dans laquelle les érudits locaux ne détectent aucune racine pouvant leur rappeler un groupe linguistique. Leur peau est verte, oui, verte, tirant sur une teinte haricot ou feuille d'arbre. À cette étrange tonalité, la vigueur du savon et des brosses de chien-dents n'apporte aucun changement. Pour le philosophe et psychologue Carl Jung, le vert est associé à l'état transitoire, à la croissance, mais aussi à l'inadaptation au monde humain. Partout dans le pays, On vient voir ses enfants à la peau verte, gamins avenants qui se laissent facilement approcher, mais leur langue et leur peau n'épuisent pas leur mystère. Leurs habits attirent l'attention. Leur matière est intrigante, une étoffe inconnue alors, extrêmement fine, presque organique, elle aussi de couleur inhabituelle. Il faut ajouter à l'épaisseur du mystère de ces enfants verdâtres l'effet suivant. Ils semblent terrifiés par la lumière du soleil, cherchent partout l'ombre et refusent farouchement toute nourriture. Un aliment fait pourtant exception, les fèves crues que leur tend un paysan et sur lesquelles ils se jettent avidement. Il faut signaler ici qu'à cette époque, les fèves sont considérées en Angleterre comme une nourriture de deuil. Pueros in hoc vilo repertos virides, in solitae faciei, alienum sermonem proferentes et fabam tantum, crudam edoctos manducare.
On trouva dans ce village deux enfants, verdâtres, au visage étrange, parlant une langue inconnue et qui ne savaient manger que des fèves crues,
affirme William de Newburgh. Ne sachant trop comment traiter ces hôtes inattendus, les paysans décident d'amener les enfants au manoir de Sir Richard de Calne à Wilkes, qui décide de les baptiser. Curieusement, leurs prénoms ne sont cités dans aucune chronique. Ils demeurent anonymes comme des figures mythiques, enfants du pays et enfants de nulle part. Quelques jours après ces événements, le garçon s'affaiblit et meurt relativement inexplicablement. Sa sœur, mais on n'est pas sûr de leur lien de parenté, lui survit, apprend l'anglais et au fil des mois, on constate que sa peau verte s'éclaircit et que la teinte disparaît pour laisser place à une apparence nouvelle, celle d'une jeune Anglaise ordinaire, même si les récits précisent qu'elle restait très peu vertueuse ou libre de mœurs, ce qui dans les chroniques médiévales signifiait simplement qu'elle était franche, indépendante ou peu soumise aux normes. L'acquisition de la langue anglaise lui permet de livrer un témoignage troublant et qui nous plonge dans un monde qui pourrait être peint par Bruegel ou chanté par le poète William Blake.
Nous venons d'un pays où tout le monde a la peau verte, comme nous. Le soleil n'y brille jamais. Il y règne une lumière crépusculaire comparable à celle du couchant. Ce pays s'appelle Saint Martin's Land, Terra Sancti Martini. Et partout, l'on entend le son des cloches.
Elle dit alors qu'un jour, alors qu'elle et son frère gardaient les troupeaux de leur père, ils entendirent un grand bruit semblable à celui d'une cloche. Ils suivirent le son, entrèrent dans une grotte, marchèrent longtemps dans l'obscurité et à la sortie furent aveuglés par la lumière du soleil, puis trouvés par les paysans de Woolpit. Ces enfants verts, William de Newburgh les a décrits, après les avoir vus, de première main donc, comme une res mirabilis, une chose merveilleuse, ce qui exclut de les réduire à une légende. Sur leur existence, la couleur de leur peau, l'authenticité de l'histoire, les doutes sont négligeables. C'est bien les interprétations qui nous intéressent. Car ces enfants verts ont une place caractéristique de l'ambivalence des savoirs, celle d'objets scientifiques pour lesquels l'imaginaire est une faculté indispensable à quiconque veut trouver une explication rationnelle. Je passe évidemment avec un rien de pitié sur les illuminés qui tiennent pour incontestable que ces Teletubbies en couleur étaient d'origine extraterrestre, tout en notant que l'association petits hommes verts et martiens pourrait venir de là. Mais penchons-nous plutôt sur les explications provenant de personnes adultes, éduquées et extérieures à l'entourage de Raël. On suggère que les enfants pourraient venir d'une communauté flamande installée en Est-Angleterre parlant un dialecte inconnu des locaux, habillés de façon différente et désorientés après un déplacement ou une catastrophe. Le fait qu'ils auraient dit venir de St. Martin's Land pourrait renvoyer à Farnham St. Martin, que certains identifient comme provenance possible. Après tout, nous sommes au XIIe siècle, il n'y a rien d'étonnant à l'existence d'une langue inconnue, de vêtements différents, à l'arrivée dans un milieu étranger. Mais alors cette peau, aussi verte que les cheveux d'une fan de Billie Eilish, on a avancé là-dessus une hypothèse scientifique vraisemblable. La chlorose ou anémie hypochrome, maladie causée par le manque de fer, donne une peau verdâtre dont les effets pourraient s'être estompés avec l'adoption d'une alimentation normale. Restent les cloches, les habits, le pays du crépuscule. Certains historiens, comme Paul Harris en 1998, pensent que les enfants pourraient venir d'une colonie flamande proche. Des familles flamandes avaient été massacrées ou déplacées sous Henri II. Les enfants, orphelins et égarés, auraient traversé les galeries d'une ancienne mine ou d'un souterrain, d'où le récit du pays souterrain. Leur langue étrange serait simplement du flamand incompris. Si le vert a toujours été associé au féerique et à l'enfantin, la preuve Greta Thunberg, l'histoire de ces enfants a inspiré poèmes, romans, chansons, pièces de théâtre, toutes situées dans l'univers du fantastique. En 1621, dans son Anatomie de la mélancolie, dont j'aimerais vous reparler un jour, Robert Burton suggère que les enfants verts auraient pu tomber des cieux. La dernière narration en date est due à l'immense Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature en 2018, qui, sous le titre « Les enfants verts », en fit un roman philosophique. Mais il nous reste à expliquer autre chose, notre explication elle-même. Car au fil du temps, ces enfants verts sans nom ont symbolisé, cristallisé, perpétué tant de choses. La nature dans sa pureté, l'altérité, l'étrangeté, la perte d'un univers supposé enchanté. Sonia Overall, sociologue, en parle en ces termes. C'est une étrange allégorie d'isolement, d'altérité et d'appartenance. Pour elle, le mythe continuera d'être transmis et sans cesse revisité. Parce que, quelle que soit leur couleur, qui n'aime pas les enfants ? L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Alors écoutez et réécoutez ce programme Forever sur toutes les plateformes et sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Bien joué cette réalisation de Cassandre Puel. Subtile cette prise de son de Jordan Fuentes. Habile mixage de Nicolas Leroulet. Chargé, très chargé même de programme, Aurélie Marsay. Et bravo à Théo Wiesmann.